mauvaise.
Mon maire à moi, il me parle d'aventure. Et quand elle brille dans ses yeux, je suis tentée de voter pour lui. Il parle de tramway, de taxi, de voiture. Mais moi j'écoute ses vieux pieux, je sais pas si je crois tout ce qu'il me dit. Je sais pas si je crois tout ce qu'il me dit. Oh oui, mon air à boire.
Vous avez reconnu la jolie voix de Anne-Sophie Jobin. Et c'est pour introduire notre prochaine invitée. Vous savez que toutes les semaines, au cours des cinq semaines où je vais co-animer l'émission du midi, je vais recevoir un des candidats à la mairie de Québec. On a déjà reçu Jackie Smith, on a reçu Jean Rousseau, et c'est maintenant au tour de Bruno Marchand, d'un parti qui s'appelle Québec Fort et Fier. C'est dur à dire QFF, Monsieur Marchand. Oui, avez-vous pratiqué avant?
Oui, on l'a pratiqué.
OK.
Mais les gens peuvent dire QFF.
QFF.
Ouais.
C'est ça, puis le sususius, puis le sississus.
Ah, j'espère qu'il faut aussi compliquer. J'espère que les gens ne seront pas aussi mêlés.
Ça ne doit pas être commode d'inventer un nom de parti.
Non, on est passé par 10 000 options à travers, qu'est-ce que ça résonne, qu'est-ce que ça ne résonne pas, effectivement.
OK. Ouais. Vous êtes un gars de Limoilou, vous vivez à Sainte-Foy.
Ouais.
Vous êtes de Limoilou ou de Sainte-Foy? On vous demande d'où vous venez?
Ben présentement, j'habite Sainte-Foy.
OK, donc oui. Vous dites de Sainte-Foy.
Oui, oui, absolument. Okay. Mais j'ai passé presque 25 ans de ma vie à Limoilou.
Ah oui?
Oui, donc mes parents avaient une maison là près du Patro. Alors, j'étais un enfant du Patro. Les fins de semaine, j'ai passé là. Ma mère me disait, il n'est pas question que tu restes à la maison.
OK.
Elle trouvait ça trop élevé, peut-être. Donc, enfant du Patro avec...
C'est ça. Pour ça que j'ai vu sur une de vos publications quelqu'un qui dit, il te manque un T-shirt du Patro.
Ah oui, il y a quelqu'un. Ah oui, c'est ça.
OK, ouais. Donc vous avez laissé des souvenirs au Patro.
Ouais.
Qu'est-ce que vous faisiez au Patro?
Ben d'abord, avant d'être moniteur, j'ai été moniteur à Charlebourg plus tard, mais avant d'être moniteur, j'ai fréquenté le camp du Patro. Et c'est là que j'ai vécu mes premières expériences, le tournoi de volleyball en équipe. C'est là que j'ai rencontré mes premiers adultes vraiment significatifs.
Ah oui?
Ouais. J'ai eu des enseignants, j'étais à l'école comme tout le monde, j'ai eu des coachs de hockey, là, mais des gens comme Martin Dupuis, Benoît Ferland, Bruno Marotte, il y avait là des gens qui m'ont recadré et qui m'ont amené dans le droit chemin parce que je pouvais être à gauche et à droite et partir dans mon les lubies. Là.
On en parlait l'autre jour à l'occasion de la journée des camps Tim Hortons, mais des camps, ça permet aux jeunes de faire des expériences qu'ils ne pourraient pas faire autrement. Ouais.
Et d'avoir des adultes qui à la fois sont dans le respect et l'écoute, mais capables aussi de dire « ça va être correct le gros ».
Okay.
On va se remettre dans le...
Il vous appelle toujours bien pas le gros, vous êtes net comme un piquette.
Non, mais quand je nomme ces gens-là, puis je veux pas en exclure, mais des gens qui étaient créatifs, des gens qui nous apprenaient à devenir des hommes et des femmes, qui nous apprenaient la vie, le respect, qui nous apprenaient... J'ai vécu là un lieu d'éducation extraordinaire.
Puis vous avez étudié en philosophie.
Oui, ça, c'est mes années d'errant.
Ben, c'est ça, j'allais dire, quand vous avez dit à vos parents « je veux devenir philosophe », ils ont réagi comment?
Ben, je pense qu'ils m'ont... mes parents étaient respectueux de mes choix, mais je pense qu'ils ne voyaient pas ce que je voulais faire avec ça. Puis je leur disais encore pire que ça. Je leur disais, quelle profession tu veux faire? Je ne vais pas là pour avoir une profession, je vais là pour apprendre la philosophie. Puis après, je verrai. Fait que ça, c'était déjà un peu bizarre.
Ouais, mais c'est vrai que c'est ça.
Ouais.
La philosophie, c'est une façon de penser.
Ouais.
Après ça, tu peux l'appliquer à n'importe quoi.
Et je voulais lire les grands penseurs, je voulais m'abreuver de ça, comprendre, apprendre, rencontrer du monde, mais j'ai jamais eu l'intention de travailler là-dedans.
Ah oui?
Non.
C'est pour ça que vous êtes retourné au cégep après votre bac.
Oui, c'est ça. J'ai un parcours...
Vous avez fait l'inverse de tout ce que tout le monde fait, d'abord un cégep, ensuite un bac, vous avez fait le contraire.
Oui. Tout le monde me disait, tu devrais aller en service social à l'université, puis je disais, ben, ce que j'ai appris en philo me sert déjà. La capacité de penser, la capacité d'être stratège, la capacité de concevoir des plans, j'avais ça. Maintenant, ce que je voulais, c'était l'intervention sur le terrain. Sur le plancher des vaches.
Donc,
puis c'est ça que j'apprends technique.
Donc, vous êtes un travailleur social.
Oui, technicien de travail social.
De métier.
Ouais.
Puis un philosophe de formation.
Oui, exactement.
Seigneur, ça fait quand même 5 ans d'études, ça, si mes calculs sont bons, minimum.
Sont bons. Ouais.
Plus que ça, 6 ans d'études.
Ben non, parce qu'en philosophie, j'ai un diplôme.
OK.
Donc, c'est une majeure, mais en philosophie, il existe un diplôme de 60 crédits. Donc, c'est 2 ans philo, puis 3 ans technique, travail social.
Et vous êtes connu dans la région pour avoir dirigé Centraide pendant longtemps.
Oui.
Puis, qu'est-ce qui vous a amené à administrer, parce que c'est pas la même chose, administrer puis chercher des fonds, puis aider quelqu'un en relation d'aide.
Oui. Ben, quand, au cégep, on a eu de l'impact sur la, le suicide des jeunes. On a mis des programmes audacieux. Quand, après avoir quitté le cégep, j'ai travaillé au cégep. On a mis, avec les cégeps de la région, des programmes audacieux qui ont fait, qui ont eu de l'impact sur le suicide des jeunes dans les cégeps de la région.
OK. Parce que vous avez travaillé d'abord...
Ouais, en intervention auprès des jeunes en difficulté.
OK.
En équilibre, l'équilibre de vie.
Centre de prévention du suicide.
Toujours avec le cégep. Et après, par les effets qu'on a eus, j'ai appliqué pour devenir DG de l'Association québécoise de prévention du suicide. Et c'est là que, de fil en aiguille, je me suis rapproché de Centraide, où j'étais bénévole. Et j'en suis venu à travailler pour Centraide, où là, j'étais plus dans l'intervention, ni en prévention du suicide. J'étais dans la mise en place de moyens pour aider du monde à intervenir, aider du monde à agir, pour faire en sorte que on perde plus personne en chemin, parce que moi, je pense que c'est possible.
Oui, mais sauver des vies, parce que dans le fond, la prévention du suicide, tu sauves des vies. Là.
Ouais.
Puis ensuite, ramasser des fonds, ça doit être plate, ramasser des fonds.
Quand j'étais jeune, moi, mon père était voyageur de commerce. Donc, c'était un vendeur.
OK.
Et quand j'étais jeune, on avait, pour différentes activités, l'équipe de hockey, il fallait vendre des palettes de chocolat, puis tout ça. Et j'ai toujours été le pire de ma gang.
Okay.
Tellement là, que quand, au cégep, j'avais pas de job un été, il y a un ami qui m'invite, viens, on va aller vendre des contrats de peinture. Comme il se fait au printemps, tu passes à travers des portes, puis les contrats que tu vends, tu obtiens 5 piastres. C'est ton seul salaire. Fait que dans la journée, tu as l'affaire en vente, tu fais être payé. On est parti une gang de 10 vendeurs d'ancillerie, vendre des contrats de peinture, des propositions pour que les gens acceptent de venir dire, OK, voici comment va coûter votre job de peinture. Et à la fin de la journée, je n'avais vendu un seul, j'étais le pire de la gang.
Donc, le fruit était tombé loin de l'arbre.
Le fruit était tombé loin de l'arbre. Je m'éloignais de ça. Et donc, en philanthropie, tout ça pour dire que pourquoi Centraide, c'était pas naturel. Ouais. Mais je réalisais qu'il y avait une cause là qui était riche et importante. Et en me ralliant aux gens qu'on aidait, j'étais capable de le faire. Pas en disant, on va aller chercher de l'argent pour chercher de l'argent. Je vois exactement ce qu'on peut faire et quelle vie on peut changer ensemble comme communauté. Et ça, pour moi, ça me donnait libre accès à aller dire à du monde, ton argent va être utile, il va être profitable pour du monde ici chez nous qui en arrache.
Par quel chemin bizarre êtes-vous arrivé à la politique? Ça ne peut pas être
aussi,
autrement que bizarre.
Ben oui. Ben, je vais en politique pour les mêmes raisons que j'étais à la Centraide. La capacité de construire quelque chose qui se préoccupe du collectif, qui laisse personne en chemin. Moi, je crois à une ville. Une ville peut faire une différence dans la vie des gens.
Vous savez que c'est plein de magouilles, la politique, là.
Ben, ce sera pas mon cas.
Y a-tu quelqu'un qui vous a dit, allez pas là?
Oui.
Qui vous a dit de pas aller là?
Ben, plein de gens m'ont dit, tu vas te perdre, tu vas, y a un paquet de choses que tu pourras pas faire, tu vas être limité, tu vas avoir pas tant les magouilles, parce que je pense qu'on a une politique quand même.
Non, mais quand je dis magouilles, je veux pas dire des malhonnêtetés, là. Ce que je veux dire, c'est, et tu dois faire un compromis pour avoir l'appui de l'un dans tel dossier, faut que tu cèdes dans telle autre affaire, puis que tu te piles un peu sur le cœur, puis que tu fasses parfois des affaires auxquelles tu crois pas.
Oui, mais ça m'arrivera pas. pas que je ferai pas de compromis, il faut faire des compromis. Vivre en société, c'est faire des compromis. On vit à deux dans nos maisons, puis on fait des compromis. Mais je n'irai pas au-delà de la limite qui est claire pour moi. Et si j'y vais, c'est uniquement parce que je pense qu'avec des gens, je suis capable de rallier cette profonde conviction qu'on peut faire une différence pour cette ville qu'on aime profondément.
Puis votre famille vous suit là-dedans?
Oui.
Ouais.
Ma blonde avec un peu de avec un œil, avec un autre qui regarde un peu avec
un peu de méfiance.
Oui, un peu de méfiance ou un peu de stress.
Parce que ça te bouffe une vie là, la politique.
Oui, puis ça dépend qui on regarde. Il y en a pour qui ça a été plus dommageable que d'autres dans leur vie personnelle, d'autres pour qui ça a été moins dommageable. Fait que je préfère regarder ceux qui ont réussi à garder leur vie personnelle, leur famille en santé, à être proche quand même de ces gens-là. Parce qu'au final, on a beau le faire pour du sens. Si dans 4 ans ou dans 8 ans, si les jeunes ont fait confiance et m'ont élu, je suis plus en couple. Mes enfants, j'ai créé une distance. Je vais avoir perdu le sens premier de ma vie et je vais être un mauvais mère.
Ils ont quel âge, vos enfants?
Mon gars a 20, ma fille a 16.
OK, ils sont presque élevés.
Ouais, mon gars adore cette étape de vie présentement. Il s'implique, il s'engage, il aime ça.
Ah oui, il fait partie du fan club de papa.
Ouais. Okay. Ben, fan club, non, mais il a le goût de s'engager.
OK. Ouais. Votre fille, moins.
Ben, je comprends que
les filles chez vous sont plus méfiantes.
Oui, mais c'est pas de temps parce que c'est des filles, c'est plus une question de caractère. Là. Elle est plus jeune un peu, mais je pense qu'elle y croit. Elle donne sa contribution aussi, donc c'est un enfant de famille.
Vous êtes arrivé avec votre casque de vélo, un super casque d'ailleurs. Il y a comme des lumières d'ailes à l'intérieur du casque.
Non, c'est la coquille protectrice.
Okay. J'ai vu sur votre page Facebook que vous faites du vélo. Vous savez que c'est fini, là. Vous pourrez plus faire du vélo comme avant, là.
Ben, je vais certainement en faire moins.
Ouais.
Mais je pense que pour être un bon maire, pour être un bon leader, il faut être capable d'avoir une santé extraordinaire.
Okay.
Et donc, si on néglige sa santé, si on néglige son hygiène de vie, je pense qu'on sert mal les citoyens.
Ça veut dire que vous buvez pas, vous fumez pas, vous avez pas de défauts?
Non, j'ai beaucoup de défauts.
OK.
Je fume pas.
Parce que j'allais dire, vous devez être plate.
Oui, ben non, j'espère que je suis pas plate, mais c'est pas tant, c'est dans les excès qu'il faut faire attention. Okay. La politique appelle les excès.
Oui.
Les excès en termes d'heures de travail, en termes de manger à des heures complètement... tu peux manger tôt le matin, puis après ça tard le soir, qui fait en sorte que tu as une hygiène de vie. Et je pense qu'il y a un effet sur ta capacité de gérer une ville.
OK.
Si t'es pas top-notch, si t'es pas en forme, quand vient le temps de prendre la bonne décision, selon moi, t'as un filtre, t'as une distance qui se prend, t'as une incapacité de voir l'ensemble des tenants et aboutissants, je pense que tu prends pas la meilleure décision. Donc, faut rester en forme, malgré la difficulté.
OK. Du vélo, là, j'ai vu que vous faisiez du vélo de gravelle.
Oui.
Vous faites du vélo de ville également,
oui.
De course,
oui. Oui.
Duathlon.
Oui.
Qu'est-ce que c'est le duathlon?
Ben, c'est la même chose que le triathlon sans la nage. Donc, pour les
okay.
poches comme moi, la nage, c'est une course suivie du vélo et suivie d'une autre course.
Okay.
Donc, c'est course, vélo, course.
Okay.
Et ça, je suis content de ça parce que ça m'a permis. Ce qui est le fun dans le sport individuel, toute ma vie professionnelle est dans du sport d'équipe.
Ouais.
Cette idée de rallier du monde, de trouver des compromis, de trouver les façons de se rendre à destination, livrer des résultats. Le sport individuel, ce qui me permet, c'est que je suis seul avec moi-même. Donc,
okay.
si je suis poche, c'est de ma faute. Si je suis bon, c'est de ma faute. Et je peux avoir des résultats directement avec l'engagement. Fait que ça m'a permis de me rendre au championnat du monde.
C'est ça. Vous êtes rendu à un assez haut niveau.
Moi, j'ai fini 19e au monde dans ma catégorie d'âge.
19e au monde?
Ouais.
Pierre Lavoie avec ça?
Ah non, ben Pierre Lavoie, c'est un méchant cycliste. Là. Avant de le rattraper,
ouais.
Oui, il est fort.
OK, mais 19e au monde, c'est quand même...
Oui, c'est une belle réussite.
Ça veut dire qu'un marathon, vous faites ça avec un tout de pique entre les jambes, vous?
Non. Il y a quelqu'un qui disait, c'est quand on avance dans un sport, peu importe lequel, c'est pas moins souffrant, on va juste plus vite. Fait que t'as pas le cure-dent, tu sifflottes pas en faisant ta course, tu souffres autant, c'est juste qu'avec le temps, t'apprends à aller plus vite.
Vous faites beaucoup de sport, vous avez une vie de famille, vous avez une vie professionnelle.
Oui.
Comment vous faites pour amalgamer tout ça?
Oui.
Est-ce que vous êtes hyper organisé?
Oui.
Tout à telle heure, je fais telle affaire?
Oui.
Ah oui?
Oh.
Ah oui,
oui, puis
vous vivez avec un chronomètre?
Oui, parce que sinon, on n'y arrive pas. Si, par exemple, dans les trois derniers mois, ça fait trois mois là, que je me suis lancé en politique, la vie est intense. Là. Fait que si je planifie pas, je vais sauter l'entraînement chaque jour. Parce que après ta journée intense, là, te dire, bon là, je vais aller m'entraîner, je vais aller souffrir un peu, parce que pour améliorer sa condition physique, il faut accepter de souffrir un peu, tu fais, non, je vais le faire demain. Puis le lendemain, je vais le faire après-demain. Fait qu'il faut que tu sois capable de dire, OK, je vais le faire, j'ai un trou de midi à une, je vais le faire de midi à une, puis après ça, on reprend le collier.
Je lisais tantôt une lettre ouverte, je pense que c'est dans le Soleil, qui disait c'est de valeur, les trois, il y a trois partis qui sont en train de se cannibaliser entre eux, les trois partis de gauche. Et ils vous mettaient dans les partis de gauche.
Non, on n'est pas à gauche.
Vous n'êtes pas à gauche?
Non, on est au centre. Penser qu'on est à gauche, c'est une erreur.
Ouais?
Oui.
Vous n'avez pas l'impression que vous êtes pas mal à gauche quand même?
Ah non. Comparativement à Démocratie Québec, Transition Québec, pas du tout.
Ah oui?
Non. Nous, on a toujours voulu, et c'est comme ça depuis le début, être au centre. C'est-à-dire une gestion des taxes rigoureuse, une gestion des services municipaux efficaces, livrer des résultats pour les citoyens, être capable de faire plus avec moins, mais aussi, d'un autre côté, le faire pour les gens. Parce que cette ville-là, on la crée pour les gens, on la crée pas pour des bâtisses ou des structures. Donc, pour moi, être au centre, c'est ça. Cette capacité d'avoir une extraordinaire gouvernance, être exigeant, puis en même temps, livrer des résultats pour les humains.
Votre meilleur souvenir de votre vie à Québec, c'est quoi?
Ah, je dirais... il y en a plein. Il y en a plein. J'aurais envie de dire... Québec, en 2008, les fêtes du 400e, ça a été il y a eu des bons shows, là. Des shows du festival d'été avec des amis.
Et c'est vous à Paul McCartney?
Oui.
OK.
Oui.
Je cherche encore une personne qui y était pas.
Ça, puis le show de Céline Dion, plus tard dans l'année, là, tout le monde était là.
OK.
Ouais. Mais ouais, ça fait partie des bons souvenirs. Les soupers entre amis, dans des parcs, dans des lieux de la ville. Ça, pour moi, c'est ça, Québec. C'est cet amour d'une ville qui est pas trop grosse, puis en même temps assez grosse pour avoir des moyens, avoir des capacités, réunir du monde, mais à une distance raisonnable, proche.
Mince et athlétique comme vous êtes, avez-vous des gourmandises?
Oui.
Comme?
Ben moi, si on ouvre un sac de chips maintenant, là, je pars pas tant qu'on vaut pas le fond. Là.
Ah oui?
Ah non, puis je dirais que ça dépasse la gourmandise. Là.
Ah oui?
Ah, non,
un sac de chips, un bête, n'importe quel saveur.
Ben, un ketchup, non.
OK.
si vous voulez m'aider, prenez ketchup. Mais,
en plus, c'est du goût, tu sais.
Mais moi, je suis un gourmand.
Ah oui?
Ah oui, non, manger, j'adore ça. J'adore les desserts, mais j'adore particulièrement tout ce qui est salé. Là. C'est infini. J'ai pas de fond.
Ah oui?
Ouais, c'est pour ça que je suis obligé de faire du sport.
C'est ça que j'allais dire. Ou bien il fait du sport pour faire l'exutoire de tout ça.
Oui.
Ou bien donc, vous êtes ce que j'appelle un mec choquant.
C'est-à-dire?
Un mec choquant, c'est quelqu'un qui mange plus que moi, puis qui reste mec pareil.
Ouais, mais je suis chanceux aussi. J'ai la génétique de mes parents. Là. Il y a des choses que je mérite pas, mais je les ai eues par ça m'a été donné par la vie. Pour le reste, ce qui m'appartient, j'essaie de. Mais c'est vrai. J'ai un ami qui disait ça. Moi, je cours avec beaucoup d'amis. Puis un ami dit, moi, je cours pas pour être en forme. Je cours pour pouvoir en manger puis boire.
Monsieur Marchand, on va faire une petite pause. Oui. Puis on va continuer notre petite conversation indiscrète. On vous a demandé de choisir une chanson énergisante et une chanson lénifiante.
Oui.
Votre énergisante, c'est laquelle?
Ah, c'est AC/DC, Thunderstruck. Donc, imaginons-nous là, un intervalle de vélo, peu importe c'est une plateforme ou dehors, là, puis là, t'as à souffrir, il faut que tu rentres dans...
C'est quoi un intervalle de vélo?
Ben, c'est dire, je vais faire, par exemple, en entraînement... La grosse tendance actuellement, c'est de faire des intervalles. Donc, plutôt que de se dire, je vais faire 30 minutes à fond,
okay.
Je vais faire des séquences de 5 minutes entrecoupées d'une période de repos.
Okay.
Donc, dans 5 minutes, tu descends dans souffrance, là, ça te prend de musique pour t'entraîner, pour te dire, on va se rendre au bout de ça. Ça, pour moi, cette tonne-là, ça représente ça.
Okay,
ça représente la force.
On fait jouer AC/DC. Vous devez imaginer Bruno Marchand debout sur sa bicyclette en train de forcer comme un damné.